Le programme de revendication transitoire dans les pays fascistes. Les jours où les stratèges du lycée ont proclamé que la victoire de Hitler n'était qu'un pas vers la victoire de Thälmann sont bien loin. Note de la donneuse de voix. À l'entrée Ernst Thälmann de Wikipédia, consultée le 13 août 2020, on peut lire, ouvrez les guillemets. Ernst Thälmann est un homme politique allemand né à Hambourg le 16 avril 1886 et assassiné au camp de concentration de Buchenwald le 18 août 1944. Il est président du Parti communiste d'Allemagne, KPD entre parenthèses, de 1925 à 1933, député au Bürgerschaft de Hambourg de 1919 à 1933, et député au Reichstag de 1924 à 1933, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Il participe aux élections présidentielles de 1925 et de 1932, parvenant les deux fois à la troisième place, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le 3 mars 1933, Thälmann est arrêté, fermez les guillemets. Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, les jours où les stratèges de lycée ont proclamé que la victoire de Hitler n'était qu'un pas vers la victoire de Thälmann sont bien loin. Thälmann n'est pas sorti des prisons de Hitler depuis plus de 5 ans. Mussolini maintient l'Italie dans les chaînes du fascisme depuis plus de 16 ans. Durant toutes ces années, les partis de la deuxième et de la troisième internationale se sont trouvés impuissants non seulement à provoquer un mouvement des masses, mais à créer une organisation illégale sérieuse qui puisse être tant soit peu comparable au parti révolutionnaire russe de l'époque du tsarisme. Il n'y a pas la moindre raison de voir la cause de ces échecs dans la puissance de l'idéologie fasciste. Mussolini n'a jamais eu, au fond, d'idéologie. Et l'idéologie, entre guillemets, de Hitler n'a jamais été prise au sérieux par les ouvriers. Les couches de la population dont le fascisme a, à un moment donné, tourné la tête, c'est-à-dire avant tout les classes moyennes, ont eu le temps de se dégriser. Si, néanmoins, une opposition tant soit peu notable se limite aux milieux cléricaux, protestants et catholiques, la cause n'en est pas dans la puissance des théories semi-délirantes, semi-charlatanesque de la « race » entre guillemets et du « sang » entre guillemets, mais dans la faillite effroyable des idéologies de la démocratie, de la social-démocratie et du Comintern. Après l'écrasement de la Commune de Paris, une réaction étouffante dura environ 8 ans. Après la défaite de la Révolution russe de 1905, les masses ouvrières restèrent dans la torpeur, presque aussi longtemps. Cependant, dans ces deux cas, il ne s'agissait que de défaites physiques, déterminées par le rapport des forces. En Russie, il s'agissait en outre d'un prolétariat presque vierge. La fraction des bolcheviks ne comptait alors que 3 ans d'âge. La situation était toute différente en Allemagne, où la direction appartenait à de puissants partis, dont l'un comptait 70 ans d'existence, l'autre environ 15 ans. Ces deux partis, qui avaient des millions d'électeurs, se sont trouvés moralement paralysés avant la lutte et se sont rendus sans combat. Il n'y a jamais eu de catastrophe semblable dans l'histoire. Le prolétariat allemand n'a pas été battu par l'ennemi dans un combat. Il a été brisé par la couardise, l'abjection, la trahison de ses propres partis. Rien d'étonnant à ce qu'il ait perdu foi en tout ce qu'il était habitué à croire depuis presque 3 générations. La victoire de Hitler, à son tour, a renforcé Mussolini. L'insuccès réel du travail révolutionnaire en Italie et en Allemagne n'est rien autre que la rançon de la politique criminelle de la social-démocratie et du Comintern. Pour mener un travail illégal, il faut non seulement la sympathie des masses, mais encore l'enthousiasme pour des organisations historiquement banqueroutières. Les chefs émigrés, ce sont surtout des agents du Kremlin et de la GPU, démoralisés jusqu'à la moelle des os, ou d'anciens ministres social-démocrates de la bourgeoisie qui espèrent que, par quelque miracle, les ouvriers leur rendront leur poste perdu. Peut-on s'imaginer un seul instant que ces messieurs deviendront les chefs de la future révolution antifasciste? Les événements sur l'arène mondiale n'ont pas pu non plus favoriser jusqu'à maintenant une montée révolutionnaire en Italie et en Allemagne. Écrasement des ouvriers autrichiens, défaite de la révolution espagnole, dégénérescence de l'État soviétique. Dans la mesure où les ouvriers italiens et allemands dépendent pour les informations politiques de la radio, on peut dire avec assurance que les émissions de Moscou, qui combinent le mensonge thermidorien à la stupidité et à l'impudence, sont devenues un puissant facteur de démoralisation des ouvriers dans les États totalitaires. Sous ce rapport, comme sous les autres, Staline n'est qu'un auxiliaire de Goebbels. Cependant, les antagonismes de classe qui ont conduit à la victoire du fascisme poursuivent leur travail même sous la domination du fascisme et le rongent peu à peu. Les masses sont de plus en plus mécontentes. Des centaines et des milliers d'ouvriers dévoués continuent malgré tout à mener un travail prudent de taupe révolutionnaire. De jeunes générations se lèvent qui n'ont pas vécu directement l'effondrement des grandes traditions et des grands espoirs. La préparation moléculaire de la révolution est en marche sous la lourde dalle du régime totalitaire. Mais pour que l'énergie cachée se transforme en mouvement apparent, il faut que l'avant-garde du prolétariat ait trouvé une nouvelle perspective, un nouveau programme, un nouveau drapeau sans tache. C'est ici la principale difficulté. Il est extrêmement malaisé pour les ouvriers des pays fascistes de s'orienter dans les nouveaux programmes. La vérification d'un programme se fait par l'expérience. Or, c'est précisément l'expérience du mouvement des masses qui manque dans les pays du despotisme totalitaire. Il est fort possible qu'il faille un grand succès du prolétariat dans un des pays « démocratiques » entre guillemets, pour donner une impulsion au mouvement révolutionnaire sur le territoire du fascisme. Une catastrophe financière ou militaire peut avoir la même action. Il faut mener actuellement un travail préparatoire, surtout de propagande, qui n'apportera des fruits abondants qu'à l'avenir. Dès maintenant, on peut dire ceci avec pleine certitude, une fois qu'il aura éclaté au grand jour, le mouvement révolutionnaire dans les pays fascistes prendra d'un seul coup une étendue grandiose et en aucun cas ne s'arrêtera à des tentatives de faire revivre quelques cadavres de Weimar. C'est sur ce point que commence la divergence irréductible entre la Quatrième Internationale et les vieux partis qui survivent physiquement à leur banqueroute. Le Front populaire, entre guillemets, dans l'émigration, est l'une des variétés les plus néfastes et les plus traîtresses de tous les fronts populaires possibles. Il signifie, au fond, la nostalgie impuissante d'une coalition avec une bourgeoisie libérale inexistante. S'il avait quelques succès, il ne ferait que préparer une série de nouvelles faillites du prolétariat, à la manière espagnole. C'est pourquoi la divulgation impitoyable de la théorie et de la pratique du Front populaire est la première condition de la lutte révolutionnaire contre le fascisme. Cela ne signifie évidemment pas que la Quatrième Internationale rejette les mots d'ordre démocratique. Au contraire, ils peuvent jouer à certains moments un rôle énorme. Mais les formules de la démocratie, ouvrez la parenthèse, liberté d'association, de presse, etc., fermez la parenthèse, ne sont pour nous que des mots d'ordre passagers ou épisodiques dans le mouvement indépendant du prolétariat, et non un nœud coulant démocratique passé autour du cou du prolétariat par les agents de la bourgeoisie. Espagne, entre parenthèses. Que le mouvement prenne seulement quelques caractères de masse et les mots d'ordre démocratique se mêleront de mots d'ordre de transition. Les comités d'usine surgiront, il faut le penser, avant que les vieux bonzes se soient mis de leur bureau à l'édification de syndicats. Les soviets couvriront l'Allemagne avant que se soit réunie à Weimar une nouvelle assemblée constituante. Il en sera de même pour l'Italie et les autres pays totalitaires et semi-totalitaires. Le fascisme a rejeté ces pays dans la barbarie politique, mais il n'a pas changé leur caractère spécial. Note de la donneuse de voix. La traduction publiée sur le site internet marxiste.org, consultée le 11 août 2020, donne l'expression plus logique de « caractère social ». Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, le fascisme a rejeté ces pays dans la barbarie politique, mais il n'a pas changé leur caractère social. Le fascisme est un instrument du capital financier et non de la propriété foncière féodale. Le programme révolutionnaire doit s'appuyer sur la dialectique de la lutte des classes qui vaut aussi pour les pays fascistes, et non sur la psychologie de banqueroutiers effrayés. La Quatrième Internationale rejette avec dégoût les méthodes de mascarade politique auxquelles ont recours les staliniens, anciens héros de la « troisième période », entre guillemets. Note de la donneuse de voix. Dans son texte « Le tournant de l'internationale communiste et la situation en Allemagne » du 26 septembre 1930, consulté sur marxiste.org, Léon Trotsky écrit, ouvrez les guillemets, « Le 9e plénum du comité exécutif de l'internationale communiste, du 9 au 25 février 1928, entre crochets. Le 6e congrès et surtout le 10e plénum s'étaient orientés vers un essor brusque et linéaire de la révolution, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, la 3e période, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, essor que la situation objective à cette époque excluait totalement, après les sévères défaites en Angleterre et en Chine, l'affaiblissement des partis communistes dans le monde entier, et surtout dans les conditions d'expansion commerciale et industrielle que connaissait toute une série de pays capitalistes. Le tournant tactique de l'internationale communiste à partir de février 1928 était ainsi en totale contradiction avec le cours réel de l'histoire. Cette contradiction a donné naissance à des tendances aventuristes, à l'isolement prolongé des partis, à leur affaiblissement organisationnel, etc. La direction de l'internationale communiste n'a effectué un nouveau tournant qu'en février 1930, lorsque ces phénomènes avaient déjà un caractère nettement menaçant. Fermez les guillemets, fin de la note de la donneuse de voix. Donc, la Quatrième Internationale rejette avec dégoût les méthodes de mascarade politique auxquelles ont recours les staliniens, anciens héros de la « troisième période » entre guillemets, pour apparaître tour à tour avec des masques de catholiques, de protestants, de juifs, de nationalistes allemands, de libéraux, uniquement afin de cacher leur propre visage peu attrayant. La Quatrième Internationale apparaît toujours et partout sous son propre drapeau. Elle propose ouvertement son programme au prolétariat des pays fascistes. Dès maintenant, les ouvriers avancés du monde entier sont fermement convaincus que le renversement de Mussolini, de Hitler, de leurs agents et imitateurs se produira sous la direction de la Quatrième Internationale.